Le monde au féminin.
Hey you, over there, please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, nommée le 15 février directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, est devenue la première femme et première africaine à diriger l'OMC. Deux fois ministre des Finances du Nigeria, Madame Okonjo-Iweala a commencé sa carrière à la Banque mondiale, où elle a travaillé pendant 25 ans. En 2012, elle avait échoué à devenir la présidente de cette institution financière. Le docteur Ngozi a fait ses études aux États-Unis, à Harvard et à l'Institut de technologie du Massachusetts. Le Honduras a réclamé des candidatures féminines à la tête de l'ONU. Lors du lancement le 4 février du recrutement d'un secrétaire général pour la période 2022-2026, un mandat auquel prétend l'actuel titulaire Antonio Guterres. Dans une lettre adressée aux membres des Nations Unies, l'ambassadrice du Honduras, Marie-Elisabeth Flores Flake, invite ses homologues onusiens à regarder sincèrement leurs engagements envers les Nations Unies et à présenter des candidates dans le respect des normes d'efficacité les plus élevées de compétences et d'intégrité, a-t-elle déclaré. Pour la diplomate, il s'agit d'entamer un processus de nomination où l'égalité et l'inclusivité sont possibles et la norme. L'ONU, qui vise et promeut la parité dans le monde et en son sein même, n'a jamais été dirigée par une femme depuis sa création en 1945. Selon un rapport de l'UNESCO, le Bénin a une proportion de 54,5% de femmes ingénieures et l'Algérie de 48,5%, des pourcentages supérieurs à la Suisse et aux États-Unis qui plafonnent respectivement à 16 et 20,4%. Les plus fortes représentations de femmes parmi les diplômés en ingénierie se trouvent notamment dans certains États arabes tels que le Maroc, Oman, la Syrie et la Tunisie, ainsi qu'en Amérique latine, à Cuba, au Pérou et en Uruguay, où le pourcentage des femmes dans tous ces pays se situe entre 42 et 47%. Bon nombre des pays où les femmes sont aussi nombreuses que les hommes à obtenir un diplôme dans les sciences et technologies ont une population majoritairement musulmane. La proportion de femmes ingénieures est inférieure à la moyenne mondiale dans plusieurs pays industrialisés comme l'Australie, le Canada, la Corée du Sud, la France et le Japon, où le taux oscille entre 14 et 26% seulement, selon le rapport de l'UNESCO.
Parole de femme.
Au Tchad, une enquête de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel a mis en exergue une évidence, la faible représentativité des femmes aux postes de responsabilité dans les entreprises de presse. La AMA fait ainsi le plaidoyer de la prise en compte des femmes dans les instances dirigeantes des médias publics et privés. Un reportage de notre correspondant à N'Djamena, André Kodmadjingar.
Sur 56 radios privées, il n'y a que 3 femmes dirigeantes. Sur 29 journaux privés, une seule femme est co-directrice de publication. Au niveau des médias de service public, 2 femmes sont directrices générales. Sur 25 stations provinciales de l'ONAMA créées, une seule femme est chef de station.
Bethel Miarom, chef du département de développement des médias à la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, un organe de régulation des médias au Tchad. Selon Halime Assadia Ali, directrice générale adjointe de l'ONAMA, Office national des médias et de l'audiovisuel, 3 éléments justifie la faible représentativité des femmes dans le secteur des médias au Tchad.
La plupart de nos familles préfèrent investir sur les garçons que sur les filles. Deuxième phénomène, on a souvent du mal à voir les femmes exercer dans les secteurs qui exposent entre griffes. Troisième élément, les premières rares femmes journalistes qui se trouvaient dans les rédactions étaient confinées un peu à des rôles secondaires. Donc ça ne permet pas aux femmes d'avoir une ascension au sein déjà des rédactions et par ricochet attendre le sommet pour gérer une radio ou une télévision.
Cependant, elle loue le mérite de quelques rares femmes qui ont fait leur preuve.
La première radio communautaire a été créée par une femme et elle a fait son chemin. Dans la presse écrite, on a eu la première femme à avoir sa publication, Kumbu, qui l'a dirigée pendant des années. Je pense qu'on n'a rien à lui reprocher. Et aujourd'hui, quand vous arrivez dans nos rédactions, que ce soit dans le public ou dans le privé, il n'y a pas quelque chose que les hommes font, que les femmes ne font pas. Même si on sait qu'en tant que femme, dans une rédaction, on a un double défi. Le défi d'être femme et le défi d'être professionnelle. Et être professionnelle, ça suppose de faire 2 fois le même travail que nos collègues hommes pour qu'on nous reconnaisse ça.
Relever les défis, Madame Seka Isabelle Assingar, directrice générale de l'Agence Tchadienne de Presse et d'Édition, en est consciente.
Pour nous autres, c'est un sacrifice. La mentalité prend les femmes comme des gens qui aiment leur corps, donc elles ne peuvent pas se battre.
Elle invite ses sœurs à plus d'abnégation pour renverser la tendance.
Je peux demander seulement à mes sœurs d'exercer le métier par vocation et dire je veux tirer mon épingle du jeu pour pouvoir émerger. Parce que c'est un métier difficile, très exigeant. Et l'homme, par instinct de domination, ne veut pas traîner la femme. Il y a également ça. Il ne faut pas l'écarter totalement. Nous affrontons des difficultés au quotidien.
Bethel Miarom, chef du département de développement des médias, a déclaré à VOA Afrique, son organe de régulation, la AMA, entend corriger ce déséquilibre pour qu'il y ait une meilleure représentativité des femmes dans le secteur des médias au Tchad.
Il est de notre devoir d'encourager les filles à aller dans les écoles de journalisme notamment. Nous entendons également encourager toutes les entreprises de presse, qu'elles soient publiques ou privées, à faire confiance aux femmes. Nous pensons qu'il est important que les femmes soient responsabilisées au même titre que les hommes.
La AMA, dont l'une des missions est de donner son avis sur la nomination des responsables des médias publics, s'engage à assurer l'égalité de sexe dans le secteur des médias au Tchad. André Kodumadingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Le pape François a nommé le 6 février 2021 la française Nathalie Bécard sous-secrétaire du Synode des évêques. Première femme à ce poste et donc première femme à avoir le droit de vote. Religieuse de la congrégation des Xavières, Nathalie Bécard était consultante du Synode. Elle a publié plusieurs essais, dont « Religieuse, pourquoi ?» et « 5 regards de femmes sur la crise ». Sa nomination reflète la volonté du pape de promouvoir une plus grande participation des femmes dans les processus de décision. Selon le secrétaire général du Synode, Mario Grech, rappelant que le nombre d'experts a augmenté lors des derniers synodes. Mais elles n'ont pas le droit de vote. En 2019, des religieuses participant à un synode sur l'Amazonie avaient vainement demandé le droit de voter sur le document final de l'Assemblée.
Si je le pouvais.
Au Burkina Faso, de nombreux enfants qui ont été contraints de quitter l'école face à la menace djihadiste travaillent dans les mines d'or où ils risquent d'être victimes d'accidents. Un reportage d'Henry Wilkins réalisé dans l'une des plus grandes mines informelles du pays. Le récit est de Jacques Aristide.
Ici à Bouda, dans le nord burkinabé, les mineurs gagnent leur vie en travaillant dans des conditions dangereuses. Le Burkina Faso est le cinquième producteur d'or en Afrique, mais entre 700 et 1 millier de ces mines sont exploitées de manière informelle. Les enfants font partie de la main-d'œuvre. Parmi eux, Aziz Zabré, qui a quitté l'école il y a 2 ans pour travailler dans les mines.
J'étais à l'école, mais je ne pouvais pas gagner d'argent. J'ai suivi mes amis dans cette mine. Quand j'obtiens de l'or, je peux faire jusqu'à 90 dollars par mois. J'en donne une partie à mes parents et je garde le reste pour mes besoins.
On estime à 20 000 le nombre d'enfants qui travaillent dans les mines d'or du Burkina. Pour Ali Ouedraogo, propriétaire de l'une de ces mines, les enfants se tourneront vers des activités criminelles s'ils n'ont pas d'autres opportunités. Il admet toutefois que la situation n'est pas idéale.
Oui, bien sûr, c'est bien pour les enfants d'être à l'école. J'ai même des enfants à l'école.
Rocky Ganamé a fui sa ville natale du nord du Burkina à l'arrivée des militants islamistes. Aujourd'hui, à 13 ans, elle fait partie des mineurs.
Nous étions à l'école lorsque ces individus sont arrivés le visage couvert, mais ils n'ont pas pu nous capturer car nous avons fui nos classes rapidement. Ma famille et moi avons quitté Soman pour aller à Ouagadougou et de là à Bouda où nous travaillons dans cette mine.
Mais les mines ne sont pas non plus à l'abri des terroristes. Ils les attaquent et réclament une partie des revenus pour financer leur lutte contre le gouvernement burkinabé. Des efforts sont en cours pour aider les enfants contraints de quitter l'école. L'appel au financement en faveur de ces enfants a été entendu par une ONG internationale. Il s'agit de Education Cannot Wait, qui a promis une enveloppe de 59 millions de dollars. Yasmine Sherif est sa directrice.
J'ai hâte de travailler avec vous tous pour parler au monde de la situation, des défis, des souffrances et sensibiliser la conscience morale du reste du monde.
Pour le ministre burkinabé de l'Éducation, Stanislas Waro, l'argent va nul doute aider.
Donc ça va permettre donc de pouvoir réhabiliter des infrastructures scolaires, construire des classes à passerelle pour permettre à des élèves déplacés internes de pouvoir être scolarisés. Ça va permettre aussi de payer certainement de vivres pour des élèves et tout. Ça va permettre aussi d'accompagner les filles donc qui sont généralement donc laissées pour compte.
Quant à Rocky Ganamé, elle a peu d'espoir de retourner bientôt à l'école.
Je veux aller à l'école, mais je n'ai pas les moyens de prendre le bus. C'est trop loin d'ici à la ville à pied.
Néanmoins, sortir les enfants des mines d'or demeure l'objectif à atteindre.
Monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
Au Mali, la ville de Tombouctou a organisé début février le festival Vivre Ensemble. L'ancienne cité surnommée Perle du Désert a été meurtrie par la guerre et occupée par les islamistes de 2012 à 2013. À l'époque, ils avaient imposé leurs lois et interdit la musique. Lors de ce festival, la jeunesse a tenté de retrouver une certaine liberté et de se rassembler au sein de communautés encore profondément divisées. Un reportage de Patricia Huon qui a rencontré des jeunes lors de l'événement culturel.
La 5e édition du Vivre Ensemble.
Tombouctou fait la fête et le temps d'un week-end tente d'oublier le conflit, les problèmes, les tensions à l'occasion d'un festival au nom porteur d'espoir, Vivre Ensemble. Baba a 13 ans, il est venu avec quelques amis et déborde d'enthousiasme.
Ce que j'ai bien aimé, celui qui a chanté Aïtiara Belle, Kodjei Makalamadi. C'est ça qui me plaît. Ensuite, la guitariste, c'était bon, magnifique.
Ce festival, qui en est à sa 5e édition, apparaît comme une renaissance après les heures sombres qu'a traversé la ville occupée en 2012 par les islamistes. La mission des Nations Unies au Mali soutient l'événement. Ricardo Maya, le chef du bureau de Tombouctou, y voit un pied de nez aux extrémistes.
les gens se retrouvent autour de la musique qui avait été interdite, nous le rappelons, par les extrémistes pendant l'occupation de Tombouctou. Et c'est pour cela que nous en faisons un point politique. Il faut vraiment contrer la vague islamiste avec des moyens égaux et contraires. Si ça empêche la musique, on fait un festival de musique.
Dans la foule des familles, beaucoup de jeunes, des garçons, des filles, la jeunesse de Tombouctou se réapproprie peu à peu des espaces de liberté.
Autrefois, on empêche carrément aux jeunes filles de sortir pour ce genre d'événement. On croit que la jeune fille est faite pour la maison et après s'est mariée. Aujourd'hui, Dieu merci, on voit les jeunes filles qui sont à l'école, ils étudient. Et je souhaite devenir une économiste dans le futur.
Même ici, Touareg, Arabes, Songhaï, se côtoient sans vraiment se mélanger, mais les voir se réjouir ensemble est une scène qui est devenue rare. Les rébellions Touareg, puis les groupes djihadistes qui se sont implantés partout dans les zones rurales alentour et recrutent jusqu'en ville, ont entraîné un repli sur soi et de la méfiance qui ont aggravé les tensions entre les groupes. Avec un père arabe et une mère Songhaï noire, Ali, un étudiant passionné de littérature, fait figure d'exception.
Les Touaregs sont représentés, les Noirs sont représentés, donc du coup chacun se sent concerné dans la chose. Aujourd'hui, les gens accusent trop les peaux blanches, les Touaregs, les Arabes, on dit que tu fais partie des terroristes, or que ce n'est pas le cas. Ce qui fait la beauté d'une nation, c'est la diversité culturelle.
Alors que tout le monde se perçoit victime de l'autre, que plus personne ne se comprend, le festival s'est déroulé sans encombre, un petit pas vers la réconciliation, mais un moment cathartique qui ouvre une fenêtre sur un avenir possible. De retour de Tombouctou, Patricia Huon pour VOA Afrique.
Au Cameroun, des jeunes à la quête de financement de leurs projets d'entreprise ont pris part à une grande exposition à Yaoundé qui offrait l'opportunité aux structures du secteur public et privé de nouer des partenariats pour l'expansion des activités des jeunes entrepreneurs. Une initiative du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique en prélude à la Fête nationale de la jeunesse le 11 février dernier. Emmanuel Juntap a tendu son micro à des visiteurs et organisateurs de cette foire de l'entrepreneuriat.
Nous sommes à l'esplanade de l'ancien palais présidentiel. Le site abrite le village de la jeunesse, un cadre dédié à l'exposition du savoir-faire des jeunes Camerounais. Le site comme ces jours ne désemplit pas de visiteurs. La plupart sont des jeunes et porteurs de projets à la recherche des financements.
Est-ce que vous financez les projets qui sont déjà en activité ou bien ceux qui veulent commencer à zéro? Quand vous
nous demandez... Bienvenue Alexis Nkongo, est un jeune conseiller municipal de la commune de Menga, à plus de 78 km à l'est de Yaoundé. Il se trouve ici dans le stand du Modepa, le mouvement de défense de la patrie qui a initié un concours de financement de projets de jeunes. Wilfried Tonga, elle est le responsable du Modepa.
Nous voulons des projets qui vont permettre à ce que les jeunes ne puissent pas fuir avec les financements qu'on leur octroie. Des projets qui vont permettre à ce que la jeunesse puisse auto-développer la communauté dans laquelle elle vit.
D'autres initiatives s'offrent aux futurs jeunes entrepreneurs camerounais sur le site de l'exposition. L'ONG Graines de Talent, par exemple, les accompagne dans la maturation de leurs projets et la recherche des financements. Tatiana Bimoga, conseillère d'entreprise.
Nous les aidons en fait à mûrir leurs idées, ensuite à faire un prototype de leur projet, à tester le projet sur le marché et s'il est viable, aller maintenant le réaliser.
Mais il arrive parfois que les produits des jeunes manquent de visibilité sur le plan local. Raïssa Evina Memana représente le ministère du Commerce dans le stand de promotion des produits locaux.
Les jeunes, ils ont même déjà des idées, même s'ils n'ont pas déjà réalisé leur projet. Mais à la fin, ils se disent toujours comment on va faire pour commercialiser, comment on va faire pour vendre. Nous, le ministère du Commerce, on les aide justement à pénétrer les supermarchés.
L'initiative Youth Connect, née au Rwanda en 2012, est implémentée depuis 5 ans au Cameroun. Elle finance également des projets d'entreprise des jeunes. Une compétition annuelle est d'ailleurs organisée à cet effet pour primer les meilleurs projets. Mathurin Essama, coordinateur de l'espace Youth Connect au village de la jeunesse.
C'est une compétition qui va permettre de mettre en perspective chez les jeunes porteurs de projets d'entreprise l'esprit de compétition. Ils vont soumissionner en ligne et puis ils vont engager une compétition en ligne et c'est au terme de cette compétition que les 7 meilleurs projets seront primés.
Grâce à un programme de financement des projets par des partenaires internationaux, Flavienne Gombinia, 27 ans, a créé à Douala une entreprise qui emploie aujourd'hui 11 personnes à la production de saucissons à base de poissons locaux.
Après que j'ai remporté un concours organisé par les Nations Unies, notamment le PNUD, j'ai gagné une somme de 9 000 $. J'ai pu ouvrir mon entreprise et créer voilà, une mini-industrie de production.
Le gouvernement a créé en 2016 le Fonds national d'insertion jeune, destiné au financement et à l'accompagnement des jeunes promoteurs en auto-emploi. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Entre parenthèses. En Indonésie, le gouvernement a interdit aux écoles de forcer les élèves à porter le hijab. Les vêtements à connotation religieuse sont un choix individuel, a souligné le 5 février 2021 le ministre de l'Éducation Nadiem Makarim. Les écoles publiques ont forcé des millions d'élèves et enseignantes à porter le voile, suscitant harcèlement, intimidation, jusqu'à des expulsions ou des démissions forcées si elles ne se conformaient pas à ces exigences. La question du voile a ressurgi quand une élève chrétienne de Padang a subi des pressions de son école pour la forcer à porter le hijab. Ses parents ont enregistré une réunion au cours de laquelle un responsable de l'établissement affirmait que le voile était obligatoire pour les filles, quelle que soit leur religion. La vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux et l'école a dû s'excuser. Le nouveau décret ne s'applique pas à la province semi-autonome d'Aceh qui observe la charia. En Côte d'Ivoire, pour réduire la mortalité maternelle et infantile dans les établissements médicaux, en particulier les maternités, les autorités sanitaires ont pris une mesure drastique, celle d'interdire la télévision dans les salles de garde afin que le personnel médical se concentre sur son travail et la prise en charge des patientes et des femmes enceintes. Notre correspondante Aïcha Diarra nous en dit plus.
Désormais en Côte d'Ivoire, la télévision dans les hôpitaux doit se limiter sur le préau et non dans les salles de garde. Le ministère de la Santé a pris cette décision dans un communiqué signé le vendredi 15 janvier 2021. Décision qui n'est pas pour déplaire à certaines personnes telles que Kofi Aya qui parle d'une négligence du personnel soignant dans la prise en charge des patients. Une faute professionnelle imputable selon eux à la présence de la télévision.
Très très bien. En tout cas moi j'ai aimé ça parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont restées dans le couchement à cause de la télé. Elles vont aller regarder la télé, laisser la personne coucher là-bas. Vraiment.
Abondant dans le même sens, Seydou Ouattara et Mamadou Sylla estiment que ce retrait des télévisions est la solution idéale pour maintenir la concentration des praticiens sur leurs patients.
Très bonne initiative, puisque les sages-femmes puis les infirmières elles sont distraites. Bon, elles s'occupent pas des malades, des femmes enceintes. Bon, c'est une très bonne chose.
Il faut reconnaître que la télévision, c'est aussi un élément de distraction. Le lieu approprié n'est pas une maternité. L'objectif, c'est que tout le monde soit concentré dans le travail. L'objectif, c'est que tout le monde soit satisfait aussi du travail effectué au niveau donc de la santé.
Même si certaines personnes partagent ce point de vue, elles souhaiteraient que la télévision, en plus du préau, soit présente dans les salles d'attente afin de réduire l'anxiété des patients qui attendent. Salma Cissé et Kone Maïmouna.
Je souhaiterais que peut-être, au lieu de placer peut-être les télés dans les salles de consultation et tout, on pourrait plutôt les installer dans les salles d'attente plutôt.
Si c'est dans les salles de consultation, les salles d'accouchement, c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de télévision. Mais je pense qu'on peut laisser ça dans les salles d'attente. Ça va permettre aux dames de ne pas trop sentir le temps qui passe.
Nous avons essayé d'entrer en contact avec certaines sages-femmes dans les maternités qui ont refusé de se prêter à notre micro. Par contre, dans les coulisses, nous avons compris que c'est un avis qu'elles ne partagent pas pour la plupart. Selon elles, la télévision ne représente en rien un obstacle à leur travail. Aïcha Diarra, Boaké, VOA Afrique.
Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.